Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Danilo. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Priscilla.
Tu es le fondateur de DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui aide des jeunes entreprises nées du digital à booster leur croissance en ligne grâce à une stratégie d'acquisition full funnel. Alors, je suis heureuse de t'avoir comme invitée car tu es la première personne que j'ai suivie quand je me suis intéressée au marketing et je me suis tout de suite mise dans ta newsletter. Donc, je sais pas, ça va faire 2 ans. Et donc, c'est méga cool de t'avoir aujourd'hui.
Yes, c'est avec grand plaisir. Bah, écoute, c'est cool que tu aies découvert mon blog ou mon podcast. À mon avis, c'est plutôt le blog que tu as découvert il y a 2 ans. Et la newsletter, bah, comme tu sais, une newsletter chaque semaine, hein. Peu importe la période, c'est une par semaine et voilà.
Il faut arriver à se booster parce que, en fait, là pour parler newsletter, qui est mon gros problème actuel, c'est que j'aime tellement pas écrire, etc., que je n'ai aucun plaisir à faire cette newsletter. Genre, c'est une tanasse, je vis ça trop inconfortablement. Tu as une passion, toi, pour le copywriting, pour écrire comment ça te. Enfin, comment vous arrivez à créer une newsletter, pardon, j'arrive pas à dire ce mot.
Écoute, moi j'aime beaucoup écrire parce que je suis quelqu'un d'introverti, donc c'est plus simple pour moi de passer du temps à écrire, à mettre sur papier mes idées, enfin plutôt sur une note d'ordinateur, de les organiser. Et je sais pas, j'aime beaucoup écrire. Après, ça fait 1 an que je crée des podcasts. Je pense que je préfère encore plus maintenant enregistrer quelque chose, parler, utiliser ma voix, ma tonalité, les émotions, même si c'est tout ça, c'est possible de le faire par écrit, bien sûr. Mais je dirais que ouais, une chose que j'aime beaucoup en fait, c'est créer des choses et que ça peut passer par le fait d'écrire une newsletter, écrire un article de blog, faire un podcast, faire justement une interview avec toi. Donc ouais, je pense que j'ai plus une passion pour tout ce qui est création de contenu dans ce cas-là.
D'accord, parce que je me dis, si t'es introverti, passer au podcast, c'est complètement différent.
Oui, mais maintenant ça va mieux parce qu'au début j'avais plus de mal. Maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai pris l'habitude. J'ai fait, je pense, 65 épisodes depuis que j'ai commencé. Beaucoup d'épisodes avec enfin des interviews, donc là c'est beaucoup plus simple parce qu'on est deux. Et les épisodes en solo, j'ai dû en faire, je dirais, 35, 40. Et au début, oui, c'était dur parce que je scriptais beaucoup les épisodes que je faisais en solo. Maintenant, je les scripte un peu moins, donc je me suis un peu habitué. Alors, quand je dis introverti, c'est juste que je suis pas la personne qui va être super à l'aise en vidéo. Peut-être que je suis devenu un peu plus avec le temps, mais c'est vrai que je me sens quand même meilleur à l'écrit. Posé dans un endroit où je suis au calme, où je peux réfléchir à mes idées, à les mettre sur une note et les organiser. Alors qu'une vidéo, c'est très spontané, donc je suis beaucoup moins bon là-dedans.
Mais quand je vois les youtubeurs, je me dis que c'est vraiment un travail énorme d'être face à une caméra, d'arriver à jouer un rôle, de mettre du dynamisme dans sa voix, etc. Ça n'a
Exact.
complètement rien à voir. Et après, le travail derrière, c'est.
Exact, ouais, il y a aussi ça, il y a tout le travail derrière. Ben là, je pense que je pourrais vraiment déléguer ce travail-là. Mais ça reste. Je ne vais pas dire que j'ai peur de faire des vidéos sur YouTube ou des vidéos sur une autre plateforme. C'est juste qu'actuellement, je sais que ça prendra beaucoup trop de temps. Il y aura peut-être plus de potentiel que pour un simple podcast parce que, ben, il y a plus de gens sur YouTube. Mais pour l'instant, ça ne reste pas une priorité. Mais je sais que ça demande du travail, comme tu dis, parce qu'il faut cadrer tout ça. Il faut faire plusieurs prises. Puis après, il faut faire le montage. C'est beaucoup plus long que faire le montage d'un podcast, ça c'est sûr.
Et donc tu as lancé ton blog pardon, en 2017. Et est-ce enfin moi j'ai l'impression que tu es devenu un peu une référence dans le marketing. Est-ce que c'était ton objectif quand tu l'as lancé?
Bon, déjà, je suis pas une référence dans le marketing. Franchement, je
Quand
pense
même.
que c'est une grosse. Enfin, non, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que pour moi, référence, tu sais, je pense à des mecs comme Neil Patel, Seth Godin,
On va
plein de noms
dire
comme ça.
francophone.
En francophonie, je sais pas, il y en a aussi des très connus. J'ai jamais les noms en tête à chaque fois qu'on va essayer de donner des personnes qui sont très connues. Après, c'est vrai qu'avec le blog, peut-être que je me suis classé dans peut-être les top 50 des blogs marketing qui ont plus de visibilité en France. Donc ça, bah, c'est indéniable parce qu'il y a des chiffres peut-être qui le prouvent, qui le montrent, avec les positionnements Google. Donc est-ce que c'était mon objectif? Non, franchement, quand j'ai lancé le blog, j'avais juste envie d'avoir une sorte d'impact, en tout cas de toucher des personnes avec mon contenu. D'avoir peut-être une certaine reconnaissance. Ça, c'est plutôt venu après, parce que je commençais à sentir que j'avais ce besoin que des personnes me félicitent pour mon travail, ou me contactent, ou me disent merci simplement. Et moi, j'aime beaucoup en fait savoir justement des personnes comme toi qui ont pu être inspirées par mon contenu, que ce soit un stream newsletter, qui ont créé aussi du contenu. Ben, ça, c'était un truc auquel je pensais au départ, même si au départ, ben, j'avais pas grand-chose d'intéressant à raconter pour inspirer. Et puis après, c'est venu avec le temps, avec l'évolution du site. Parce que moi-même, en fait, je m'inspirais d'autres créateurs de contenu. Je pense que l'un que j'ai le plus aimé quand j'ai commencé à créer du contenu, c'était Gary Vee. Mais Gary Vee, déjà à l'époque, il avait déjà créé plusieurs entreprises et était déjà multimillionnaire, à mon avis. Et donc, moi, ça m'inspirait beaucoup de voir un mec comme ça qui crée du contenu et ça m'a donné envie de faire pareil. Donc, c'est simplement comme ça que j'ai commencé. Et voilà, certaines personnes commencent avec des objectifs bien précis. Moi, je n'avais pas un objectif très précis à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai des objectifs plus précis par rapport à mon blog et ce que je veux. Mais au début, non, j'ai clairement pas pensé à me poser comme une référence ou avoir un blog avec 100 000 lecteurs. C'est pas ça que je pensais au début. 100 000 lecteurs par mois dans ce cas-là.
Parce que moi, je vois bien que quand on est dans l'entrepreneuriat, tout le monde dit « Ouais, objectif hyper précis. » Et en fait, ça fait une pression parce que au début, tu lances ça un peu pour le fun, avec le feu, en disant « Ouais, je vais créer un truc, ça va être trop bien. » Donc, j'ai l'impression que les objectifs, tu vois, ils viennent avec le temps quand tu as envie de vraiment créer quelque chose et de professionnaliser, et dire « Ok, j'ai créé un truc, il y a peut-être du potentiel, maintenant, il faudrait que je cadre un peu tout. »
En fait, quand tu commences à cadrer les choses et que tu te mets des objectifs chiffrés, pour moi, ça devient plus un travail d'organisation, de management. Et oui, c'est peut-être un peu moins fun que quand tu démarres sans attente particulière. Après, voilà, maintenant, mon blog, clairement, c'est une source de revenus en quelque sorte. Donc, je fais hyper attention à ça, au positionnement des articles, au sujet que je vais traiter, à tout ce que je vais dire finalement. Donc, j'y prends peut-être un peu moins de plaisir qu'avant. Mais après, peut-être qu'avec le temps, je vais arriver à faire la part des choses et avoir des objectifs très précis et toujours y prendre beaucoup de plaisir. Maintenant, je suis vraiment très focus business. Et qu'est-ce que mon blog peut générer en termes de lead ou de vente. Donc, c'est vrai que je prends un peu moins de plaisir qu'avant. Et je pense que c'est intimement lié au fait que j'ai des objectifs précis par rapport au blog, sa visibilité, le taux de conversion, etc.
Comme tu prends moins de plaisir, est-ce que des fois, tu as du mal à t'y mettre ?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, là, j'ai écrit un article hier, donc jeudi. Et c'est vrai qu'on était dans l'après-midi. Et vers 15h, clairement, j'en avais marre. J'ai été prendre une pause d'une heure et demie. J'ai été faire autre chose. Après, c'était un peu mieux. Mais oui, il y a certains articles où je ne vais pas dire que je me force de les faire, mais je dois quand même me motiver moi-même mentalement de les faire. Alors qu'avant, je n'avais pas vraiment cet aspect-là parce que j'avais beaucoup moins de pression parce que je n'avais pas forcément 20-25 clients à gérer. Enfin, ce n'est pas moi qui gère tous les 25 clients, mais je pense que tu as compris. Il y a une certaine pression par rapport à ça. Ni d'entreprise à manager, ni des chiffres à devoir atteindre à la fin du mois. Donc, c'était vraiment différent. Ça, c'était plus un plaisir, des choses que je faisais. En plus, je faisais même durant le week-end. Donc, pour te dire, maintenant, je le fais la semaine parce que le week-end, je n'y arrive plus. Et donc, oui, tout ça pour te dire que oui, il y a des fois où j'ai un peu de mal à créer du contenu. Et je dirais que ça dépend aussi du contenu en lui-même. Par exemple, j'ai écrit un article sur les top 10 des podcasts que je préfère. Je l'ai écrit assez vite parce que j'étais hyper inspiré, parce que ben, justement, j'adore écouter des podcasts et en créer. Donc, du coup, c'était un article qui était très simple à écrire. Mais là, par exemple, j'ai écrit un article sur comment structurer des campagnes Facebook Ads. Comme c'est un sujet que j'ai abordé mille et une fois, que ce soit dans des interviews, sur mon podcast, dans mes formations, en parlant avec des clients, mais bon, répéter une énième fois ce concept et le mettre à l'écrit, j'avais un peu moins envie, quoi. Mais je l'ai quand même fait.
Oui, je me dis, à la redondance de dire toujours les mêmes choses, ça doit être compliqué à terme.
Exact. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Parce que moi, je suis un peu dans cette phase-là où je me dis, ok, j'aurais bien que ça soit plus pro, etc. Et je vous avoue, je prends beaucoup moins de plaisir et j'ai vraiment du mal à m'y mettre. J'ai même du mal à me lever. Ça devient un peu vivement les vacances.
On est en juillet. Ah non, en août, pardon.
Non, en août, oui, ça passe trop vite. Mais ouais, moi, j'arrive dans ce plateau, tu vois, où je me dis, ok, je suis à deux doigts de pouvoir faire quelque chose de plus professionnel dans ma tête. Et le, ok, ben, faut que je le fasse, en fait. Et donc, je mets moins de force parce que je suis moins motivée, parce que je trouve ça moins fun. Donc, tu n'as pas les résultats derrière qui tombent. Et en fait, ça devient frustrant et tu dis, waouh, quel magnifique cercle vicieux.
C'est ça, ça peut vite devenir un cercle vicieux. Après, non, je ne vais pas te mentir, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ce que je fais. Mmh. Je sais qu'il y a son lot de pression, mais c'est juste que si on reparle de ce que je faisais il y a 3-4 ans, qui était de créer du contenu sans attente particulière, ou alors dans le seul but d'avoir quelques clients, quelques revenus qui rentrent par-ci par-là, en plus de ce que je faisais sur le côté, donc qui était soit de chercher de l'emploi ou soit de gérer quelques prestations. Oui, c'était un super plaisir. Maintenant, comme je te dis, c'est différent.
Oui, mais je me dis, ton entreprise évolue, donc de toute façon, ça veut dire que tu mets quand même tellement d'énergie positive dedans et que tu as envie de te lever le matin. C'est que
j'ai bien envie de me lever le matin, bien sûr.
C'est des petits paramètres un peu, voilà, qu'on prend moins de plaisir, mais on le fait quand même. Et est-ce que toi, tu as toujours voulu être entrepreneur?
Je pense pas que c'était un rêve. Bon, en tout cas, je suis pas sûr que j'ai toujours voulu l'être. En tout cas, avant mes 22, 23 ans, j'y pensais pas trop. J'ai commencé à y penser vers 22, 23 ans, justement parce que ben, quand j'ai eu une première expérience dans le salariat en tant que stagiaire, j'ai vu l'environnement ben, qu'il pouvait y avoir dans des institutions financières comme des banques. Et ça ne m'a pas trop donné envie. Donc, j'ai commencé à me questionner, à lire des livres là-dessus. C'est là quand j'ai pensé à peut-être être entrepreneur. Mais c'était juste un peut-être. Je me disais, oh, tiens, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir une entreprise. Mais je ne savais pas du tout une entreprise de quoi, quand est-ce que j'allais faire ça, avec qui. Donc, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire à ce moment-là. Après, ce que je peux te dire, c'est que ben, là, 5 ans plus tard, donc c'est plus ou moins vers 22, 23 ans, je me posais les questions, là j'en ai 28, ben, je sais que je suis vraiment à la place où que je voulais être il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, parce que moi, ce que je voulais, c'était simplement d'être indépendant, avoir une situation financière qui est stable, être heureux, avoir des responsabilités dans mon activité pro. Et aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai, quoi. Et je pense que si je n'avais pas suivi cette voie à 24 ans de commencer à créer du contenu, ben, je n'aurais peut-être pas pu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, pour répondre à ta question, je ne suis pas sûr que c'est un rêve ou que c'est toujours ce que j'ai voulu être, mais là je le suis et je suis très content des résultats que j'ai pu obtenir grâce à mon activité en tant qu'indépendant et en tant que, dans ce cas-là, CEO d'agence.
En fait, c'est en créant un peu un side project que tu as pu devenir ce que tu es aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Et pour moi, je vois vraiment ça comme un véhicule, donc un moyen qui me permet d'avoir des résultats. Donc, peut-être que ça tombe... Il y a 3 ans, j'aurais peut-être créé un site e-commerce et je vendrais des chaussures. Mais finalement, non, j'ai une agence de publicité Facebook. J'aime beaucoup la pub Facebook, j'aime beaucoup le marketing. Donc, ça me botte bien comme secteur. D'autant plus qu'on peut travailler avec plein d'entreprises super cool, qui ont des super projets. On peut les booster, les mettre en avant. Généralement, les clients avec qui on bosse, on est content de travailler avec eux. On a des bonnes relations. Donc, à ce niveau-là, je suis content. Bien sûr, ça a son lot de problèmes parce que ben, voilà, il y a des choses qui ne vont pas toujours très bien. Il peut y avoir des problèmes avec de la saisonnalité, des plateformes qui ont des soucis, on en parlera peut-être après. Voilà, je sais que c'est un métier stressant, mais quelle que soit l'activité que tu vas entreprendre, ce sera stressant. Donc moi, je sais que quand tu es entrepreneur, penser que tout va bien aller et qu'il n'y aura jamais de problème et qu'il n'y aura jamais de stress, c'est utopique. Et je pense qu'on a d'office beaucoup plus de pression quand on est vraiment le chef d'entreprise, en tout cas qu'on a un rôle dans le management ou la direction de l'entreprise, on a beaucoup plus de stress que quand on est, par exemple, indépendant ou quand on fait un premier job de community manager. Enfin, je ne dis pas que quand on est community manager, on n'a pas de pression, mais juste que la pression est peut-être un peu différente. Donc, tout ça pour te dire que ce que je fais aujourd'hui, je suis hyper content de le faire et ça me permet vraiment d'avoir les résultats dont je te parlais, que je voulais au départ. C'était être indépendant, faire un peu ce que je veux, quand je veux. Ce n'est pas toujours possible, c'est vrai, mais je peux quand même me permettre des choses. Et par exemple, si je veux aller travailler un mois à l'étranger, je peux tout à fait le faire. Et je suis très heureux dans ma vie et j'ai plein de choses... positif par rapport à ça.
Et c'est à quel moment qu'en fait ton blog il a décollé et que tu t'es dit ok, je peux faire un business?
Il a décollé ben justement fin 2017 et c'est à ce moment-là que j'ai justement eu des demandes pour des prestations de services. Comme je n'avais rien à vendre, ben, j'ai cherché à développer une offre qui n'était pas terrible à l'époque mais qui m'a permis en tout cas de vendre quelques prestations les premiers mois de l'année 2018. Et donc je pense vraiment vraiment au deuxième trimestre de 2018, j'ai quand même senti que j'allais dans la bonne voie. Donc, je te dirais pour répondre à ta question que fin 2017, j'ai senti que je pourrais peut-être éventuellement avec beaucoup de si vivre d'une activité d'indépendant ou de consultant en marketing grâce à mon blog. Et 4-5 mois plus tard, j'ai eu la confirmation que c'était possible.
C'est comme aller vite, mais je sais que tu as créé beaucoup de contenu.
Ouais, genre, bah, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on parlait de contenu tout à l'heure, mais aujourd'hui, je crée beaucoup plus de contenu qu'avant. Avant, je créais un article de blog par semaine, je faisais quelques posts Facebook et c'est tout. Aujourd'hui, je fais 3-4 posts Instagram par semaine, 3-4 posts LinkedIn par semaine, 2 épisodes de podcast, un article de blog toutes les 2 semaines, j'en mets également certains à jour ou alors je délègue la mise à jour de certains articles de blog. Donc, et je fais aussi des podcasts avec des personnes comme toi, des interviews en live, des choses comme ça. Donc, je crée beaucoup plus de contenu maintenant qu'il y a 4-3 ans pourtant.
Est-ce qu'il faut en créer beaucoup plus maintenant qu'avant, justement, parce que c'est devenu une norme?
Ouais, je trouve qu'il y a plusieurs années, donc en 2017-2018, il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu, il ne se passait rien sur LinkedIn, il ne se passait rien sur Instagram, en tout cas dans notre secteur, le marketing digital et l'entrepreneuriat de manière générale, hein, tout ce qui est entrepreneuriat en ligne. Donc je trouve qu'il faut quand même créer plus de contenu. Après, pourquoi est-ce que je ferai autant de contenu? Je dirais que je sais que si plus je suis présent dans l'esprit des gens, en tout cas dans l'esprit des personnes qui peuvent me voir sur les réseaux, plus il y a de chances qu'ils me contactent pour une prestation, pour une formation. Donc, je sais que bah, ça reste intéressant de créer beaucoup de contenu. Donc, pour moi, le contenu, tu as cet effet boule de neige où tu te dis, OK, j'en crée beaucoup au début et après, ben, ça roule bien, ça marche bien. Et j'ai continuellement du trafic grâce au SEO ou au fait que j'ai une chaîne YouTube avec plein d'abonnés. Mais dans un sens, tu sais que si tu arrêtes de produire si tu arrêtes de produire du contenu, tu finis par être oublié. Donc, tu es toujours obligé d'en créer, de manière générale. Il y en a qui vont garder un rythme très correct, peut-être un post par semaine sur chaque réseau et un article ou un épisode de podcast ou une vidéo YouTube, histoire de nourrir un peu leur communauté. D'autres, comme moi, qui veulent produire un peu plus de contenu. Et j'en connais encore d'autres qui en produisent encore bien plus que moi.
Ouais, mais après, je pense qu'ils délèguent aussi.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'à un moment, ça devient compliqué.
Bah, ils délèguent. Mais par exemple, il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle The Mindset Mentor, en anglais. C'est un super podcast. Et je me rappelle, l'année passée, j'ai écouté, il faisait 2 épisodes par semaine. Maintenant, il en fait 5. Et pourtant, c'est toujours lui qui continue à les produire. Donc, on voit qu'il a accéléré sa création de contenu. Et j'avoue que maintenant, j'ai l'impression de le voir, mais tout le temps. Étant donné qu'il fait un podcast tous les jours et qu'il poste sur Instagram, il doit également poster sur LinkedIn et Facebook, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est très présent. Et je sais que ça marche bien pour lui parce qu'il explique dans son podcast que son activité se porte super bien.
Oui. Bah, après, c'est un rythme que chacun doit trouver, quoi. Moi, je sais pas si tu as eu des moments difficiles, des échecs, des moments où tu as voulu abandonner.
Et jamais vraiment eu de moment où j'ai voulu abandonner. Je pense que c'est dans ma personnalité de vraiment être persévérant. Moi, j'aime bien parler de résilience. Donc, le fait vraiment de continuer à avancer, quoi qu'il arrive, de se relever, de chercher des solutions, peut-être de pivoter, de passer les obstacles, sauter au-dessus, passer à côté, etc. Donc, je n'ai pas vraiment eu de moment où j'ai voulu abandonner. Par contre, comme tout entrepreneur, j'ai eu plein de difficultés, mauvais moments, des échecs, j'ai fait plein d'erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ma plus grosse difficulté ou frustration, c'est de perdre des clients. Parce que je reste très attaché, peut-être parfois trop attaché émotionnellement aux clients avec qui on bosse. Et quand ils vont voir ailleurs pour telle ou telle raison, ça peut être parce que les performances sont moins bonnes, parce qu'ils sont moins satisfaits de la prestation, ou parce qu'ils veulent réinternaliser tout ça, je le prends toujours un peu personnellement. Maintenant, j'ai réussi un peu à me détacher de tout ça émotionnellement. En tout cas, je pense être un peu moins qu'avant, mais ça reste quelque chose qui est frustrant, je trouve, de perdre des clients. Donc voilà, et pour le reste, en fait, honnêtement, ça s'est assez bien passé ces 3 dernières années. On n'a pas eu trop de difficultés. Là, on en a un peu plus parce qu'il y a des problèmes avec iOS 14 et Facebook, donc ça crée du stress parmi nos clients. Donc je sais clairement que ce n'est pas une période facile pour les agences Facebook. Donc si jamais il y a des consultants Facebook ou des CEO d'agences qui nous écoutent, on est tous dans le même bateau. On a tous des problèmes et ce n'est pas simple en ce moment. Donc pour l'instant, ça va, mais je suis sûr et certain qu'il y aura des problèmes qui seront bien plus durs et qui arriveront dans le futur. Donc il faudra s'y préparer et chercher à avancer, quoi qu'il arrive.
Ouais, justement, c'est une question que je me posais, c'est comment on arrive à créer un métier alors qu'il dépend tellement des algorithmes et des décisions de tous les GAFA.
Moi, ce que je me dis dans tous les cas, c'est que Facebook, Google, Apple, Amazon, ils vont pas mourir. Donc, quoi qu'il arrive, ces entreprises-là plutôt, vont trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, nous, on fait de la publicité sur leur plateforme. Enfin, plutôt, on achète de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Facebook va pas se laisser faire avec tous les problèmes avec Apple, il y en aura peut-être d'autres avec Google ou avec les navigateurs avec les cookies, ils vont pas se laisser faire, ils vont trouver des solutions et c'est vrai que parfois c'est stressant parce qu'ils n'ont pas les solutions tout de suite ils n'ont pas les solutions tout de suite et surtout on est beaucoup dépendant des solutions qu'ils vont mettre en place, donc peut-être que des solutions seront peut-être moins intéressantes pour nous en tant qu'agence, peut-être qu'elles le seront plus, on verra, mais ce que je peux te dire c'est que avec les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur Facebook, les PME ont vraiment besoin de s'entourer d'experts qui maîtrisent la situation, qui comprennent ce qui se passe. Parce que si elles souhaitaient le faire par elles-mêmes, c'est déjà pas facile. Mais maintenant, avec ce qui se passe avec les mises à jour d'iOS, des iOS et bientôt d'Android et des cookies, ce sera encore beaucoup moins. Donc je sais qu'il y aura des opportunités qui vont arriver avec les problèmes qu'on a actuellement. Là, elles peinent un peu à arriver parce que en fait, la mise à jour a été déployée fin avril. En réalité, c'est seulement vers début juin qu'on a vu les problèmes arriver. Et là, en fait, c'est l'été. Donc, les entreprises se posent des questions. Mais en fait, elles se posent des questions parce qu'elles pensent, à mon avis, que c'est lié au fait que les gens sont déconfinés, que c'est l'été, que oui, il y a les problèmes d'iOS. Mais je pense qu'elles vont encore s'en poser bien plus quand elles vont voir, finalement, en septembre, octobre, que c'est pas bien meilleur. Ça sera meilleur qu'en juillet, août, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là, à mon avis, on va avoir de la demande et on va avoir... des questionnements qui peuvent arriver de la part d'entreprises qui veulent faire de la publicité Facebook ou qui en font déjà. Donc, je sais que ça va créer des opportunités. Dans tous les cas, c'est pas simple de faire un métier où on dépend des décisions, des algorithmes et des GAFA, comme tu l'as dit. Il faut s'adapter. Et je dirais aussi qu'il faut se diversifier. Peut-être qu'un jour, on fera plus seulement la pub Facebook, mais aussi de la pub Google, Pinterest, Amazon, j'en sais rien, j'invente. Mais en gros, pour se dire, bah tiens, s'il y a beaucoup de problèmes sur Facebook, bah en ce moment, sur Google, ça marche très bien et sur Amazon encore plus. Donc, c'est bien pour nous aussi. Mais là, pour l'instant, bah, moi, je reste spécialisé sur Facebook Ads et bah, les gens avec qui je travaille, je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc, on fait du Facebook Ads.
Oui, parce que je me dis, avec la nouvelle mise à jour d'iOS, c'est quoi ? Comme quoi, c'est les cookies ne sont pas enregistrés plus de 24 heures. Donc, tu ne peux plus faire de retargeting, etc. et de pub ciblée, non ?
C'est presque ça. C'est qu'en gros...
C'est vite fait, comme j'ai expliqué.
C'est pas totalement lié aux cookies, parce que, en fait, quand tu es sur un appareil iOS et que tu vas sur une application, n'importe laquelle, de l'App Store, Apple te demande si tu es d'accord que cette application te traque. Et donc, va utiliser un identifiant, dans le cas de Facebook, enfin plutôt dans le cas de l'application Facebook, il va utiliser ce qu'on appelle un IDFA, donc une sorte de tracker, mais qui va suivre ton activité sur différentes applications et sites web sur iOS. Mais le truc, c'est que si tu dis non, le tracker IDFA ne sera pas d'application, ne va pas fonctionner. Donc du coup, il n'y aura plus de tracking, donc tu ne pourras plus, enfin l'annonceur ne pourra plus te montrer de la publicité personnalisée. Savoir si tu as acheté sur son site parce qu'il a refusé qu'on le traque.
Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté le tracking.
Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne l'acceptent pas et il ne faut pas oublier que ce n'est pas sur 24 heures, c'est tout le temps. En fait, si tu n'acceptes pas une fois, bah en fait, ça restera toujours comme ça, à moins que tu ailles dans tes paramètres. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs, allez dans vos paramètres de votre iPhone et acceptez le tracking pour Facebook et Instagram. Ça nous créera moins de problèmes. Enfin, je rigole un peu, mais plus sérieusement, je pense que tu as dans les paramètres de ton iPhone, je suis en train de regarder, à mon avis, dans général, sûrement dans... je ne trouve pas, je ne pense pas que je vais chercher en direct, mais en gros, il y a un paramétrage, ce qui s'appelle sûrement App Tracking Transparency, où tu peux voir un peu les applications où tu as bloqué le tracking, en gros.
À quel moment tu t'es dit que tu pouvais en fait monétiser tes services ? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait deux philosophies. Celles qui veulent faire du gratuit avant d'oser vendre, ou il y a la philosophie je vends et en fait j'apprendrai sur le terrain.
Bon, en fait, moi j'ai juste attendu d'avoir des demandes. Enfin, c'est pas que j'ai attendu, c'est que quand j'ai eu des demandes, j'ai compris que je pourrais vendre mes services, même si j'en avais pas encore. Donc c'est juste à ce moment-là que j'ai compris que je pourrais potentiellement les vendre. Donc c'était 6 mois après avoir lancé mon blog. Moi, ce que je peux donner comme conseil à la limite pour ceux qui nous écoutent, c'est d'apprendre un maximum de choses chez un annonceur ou une agence et proposer ses services en tant que freelance ou avoir un side project. D'accord ? Et si ça commence à bien marcher, que tu commences à avoir des demandes, quelques clients, que tu vois que tu commences à avoir générer un revenu qui est intéressant en tant qu'indépendant complémentaire ou auto-entrepreneur en France, bah là, tu peux te lancer à temps plein quand tu vois qu'il y a ce potentiel-là. Après, moi, ce que je conseille dans tous les cas, c'est de compter 6 mois à 1 an pour se payer. Donc au début, c'est pas une bonne idée de se payer parce qu'on a besoin de trésorerie, de se constituer une trésorerie et de faire attention à ses sous. Et après 6 mois à 1 an, normalement, on est censé être en mesure de se payer. Donc tout ce que je peux te dire, c'est que le mieux, c'est de commencer un projet sans trop de risques, le faire soit en tant qu'indépendant complémentaire en plus d'un emploi. Ou alors, il y en a que j'ai une personne que j'ai recrutée récemment qui s'appelle Géraldine. Et Géraldine, elle est indépendante complémentaire et elle travaille aussi chez nous à mi-temps. Et après, elle fait un peu les deux, donc c'est cool pour elle. Et je pense que c'est intéressant peut-être de faire un peu des deux si on n'est pas trop sûr de soi, de faire à la fois un travail à mi-temps et avoir une activité en tant qu'indépendant complémentaire à mi-temps aussi. Donc ça dépend un peu de toi, de ta capacité à gérer le risque et à bien débrouiller dans cette situation-là. Certaines personnes, ils adorent être dans une situation où il y a beaucoup de risques et donc du coup, ça les pousse à se dépasser et à trouver des solutions. Il y a d'autres personnes qui veulent être plus à l'aise et qui préfèrent vraiment attendre qu'elles ont des plans clairs pour se lancer. Moi, je sais ce genre de personnes-là. Je préférais vraiment attendre d'avoir que ce soit plus clair, que l'horizon soit pas trop débouché pour pouvoir proposer mes services. Et c'est ce qui est arrivé en fait, c'est que comme je cherchais de l'emploi à cette même époque et que j'étais tranquille chez mes parents et que j'ai commencé à avoir des demandes pour mes services, je me suis dit c'est parfait, autant essayer de lancer mon activité en tant qu'indépendant complémentaire pendant quelques mois et si jamais ça se passe pas bien, je peux toujours chercher de l'emploi. C'était un peu ce que je m'étais dit à l'époque. Je m'étais donné 6 mois pour générer un revenu correct pour me payer un salaire.
Oui, Mais après, quand je me... Je sais pas, toi, t'es en Belgique, c'est ça? Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises ou être là, la française de base qui connaît pas les autres pays, je suis désolée. Mais vous avez aussi un statut d'entrepreneur aussi simple que le
Non,
nôtre ou c'est
justement.
plus
En fait, on
compliqué?
a un statut d'indépendant complémentaire. Et le statut d'indépendant complémentaire, c'est un statut qui te permet de cumuler une activité de salarié ou même d'être au chômage et de te lancer en tant qu'indépendant. Mais tu ne peux pas dépasser un certain niveau de revenu, sinon tu vas payer beaucoup d'impôts. Et si tu dépasses ce niveau de revenu qui est vraiment très bas, hein, je pense que c'est 4 000 euros sur l'année, un truc comme ça. Donc ça fait à peine. Ça fait à peine 400 euros par mois,
Oui.
ce qui est ridicule. Tu vas payer des cotisations sociales de 700 euros tous les 3 mois. Donc, pour beaucoup d'indépendants, ça leur fait peur de payer 700 euros de cotisations sociales tous les 3 mois. Ça me faisait peur aussi, même si aujourd'hui j'en paye beaucoup plus. Mais c'est vrai que je trouve que tu n'as pas vraiment un statut aussi cool que l'auto-entrepreneur. D'autant plus qu'en tant qu'indépendant complémentaire, tu dois tenir une comptabilité, tu dois payer, enfin rendre de la TVA tous les 3 mois ou en récupérer. Donc tu dois tenir une déclaration trimestrielle. Donc tu as besoin d'un comptable qui va te coûter au départ, même coûter je pense 300 ou 400 euros tous les 3 mois. Donc il fallait les mettre, en sachant que je venais de débuter. Donc c'est clair que c'est pas aussi simple qu'en France. C'est pas aussi simple, donc vous êtes des petits chanceux, vous. Non, je rigole.
Oui, voilà, parce que... Non, mais si, il faut le dire, parce que quand même, l'ACRE, on a un bon chômage, enfin là, ça commence à être compliqué, parce qu'ils veulent sortir des nouvelles lois là-dessus. Mais on a quand même, voilà, pas mal de choses, c'est assez simple, on va sur Internet, le comptable, voilà, on peut aller jusqu'à, je sais pas, 30 000, voilà, passer, enfin... On a quand même une certaine chance et je me dis, y a pas, y a moins de freins pour se lancer, hormis les peurs, parce que le statut d'entrepreneur est assez flexible et cool et rend l'entrepreneuriat simple en France.
Bah, simple, je dirais pas que c'est simple parce que franchement, si c'était simple, tout le monde pourrait le faire. Mais je vois ce que tu veux dire, se lancer est plus simple
Oui.
que en Belgique, dans d'autres pays, je sais pas comment c'est. Mais ça, je peux te dire que si j'étais en France, j'aurais plus de facilité à me lancer. Après, je pense du point de vue administratif, les deux pays se valent en termes de complications administratives.
Oui, bon après on a besoin du comptable, enfin c'est moins répandu le comptable, etc.
Oui. C'est vrai, c'est vrai. Normalement, un comptable, c'est plutôt quand tu es en société en France, alors qu'en Belgique, même quand tu es indépendant complémentaire ou indépendant tout court, ben tu as besoin d'un comptable.
Je dis pas que c'est simple de se lancer dans l'entrepreneuriat dans le sens où faut quand même voilà, avoir un peu être une tête brûlée, mais pour juste passer la première barrière de je la crée, après le reste, voilà. C'est l'iceberg. Justement, je parlais d'entrepreneuriat. Et est-ce qu'il y a des choses pour toi essentielles dans le marketing que tout le monde devrait connaître et on passe un peu à côté? Moi, j'ai remarqué beaucoup de personnes passent à côté de la base du branding.
Je trouve que ouais, le branding, c'est super important. Créer une marque forte, j'en parlais avec Pierre dans mon agence. On expliquait que les clients qui étaient le moins touchés par iOS 14 sont ceux qui ont une marque super forte parce que même quand il y a des problèmes d'algorithme et même quand c'est l'été, que c'est super calme, qu'il y a un peu moins de choses à promouvoir, ils continuent à vendre parce qu'ils ont une marque très forte. Moi, j'avais un autre truc en tête par rapport à cette question, c'était le positionnement. Je pense que c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de trouver son client idéal. On parle beaucoup justement de créer du contenu, etc. Mais je trouve que le fait de trouver un positionnement qui est un peu unique, ou en tout cas qui est différenciant, on n'en parle pas assez. Et Seth Godin, justement, que j'ai cité au début de l'épisode, il te parle beaucoup de ça. Ce qu'il explique, en gros, c'est que si tu veux vraiment te démarquer de la concurrence et en quelque sorte trouver le sweet spot, donc vraiment l'endroit dans le marché où tu vas vraiment être différencié, où tu pourras vraiment te démarquer des autres, tu dois en gros te positionner correctement. Donc comment faire? Ce qu'il explique, c'est que tu dois déterminer deux axes pour ton positionnement. Et dans ces deux axes, tu vas identifier deux attributs de ton produit ou service qui sont importants pour ton audience. Ça peut être le prix, la performance, la qualité, les ingrédients, le professionnalisme, c'est tout ce que tu veux. Et tu vas te positionner dans les extrémités, c'est-à-dire là où tu as peu de concurrents. Donc, j'ai vraiment donné l'exemple pour DHS Digital. Et ça, c'est ce que j'avais fait l'année passée, au milieu de l'année 2020. C'est qu'en gros, je remarquais de plus en plus, je voyais des consultants débarquer sur Facebook Ads, donc de plus en plus de consultants indépendants qui faisaient exactement la même chose que nous, donc avaient la même offre et qui avaient le même discours marketing qui était de dire on gère vos campagnes, on les pilote et on vous apporte de la performance. Okay? Le truc, c'est que si tout le monde fait la même chose et tout le monde a le même prix, bah, c'est un océan rouge parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être différent par rapport à d'autres agences et d'autres consultants qui font plus ou moins la même chose, en tout cas qui proposent la même offre que nous, et chercher deux axes sur lesquels être vraiment bon. Donc bien sûr, je t'ai cité l'axe du prix. Je dis, tiens, est-ce qu'on veut vraiment se battre avec le prix? Pas forcément. Je ne suis pas forcément envie d'adapter mes prix en fonction de la concurrence. Est-ce qu'on veut se battre avec l'axe de la technique? Est-ce qu'on veut être les meilleurs techniciens du marché? Je ne suis pas sûr non plus, parce que déjà à l'époque, on parlait du fait que la technique sur Facebook, c'est de moins en moins valorisé, parce que les entreprises se disent qu'elles peuvent le faire elles-mêmes, parce que ce n'est pas si dur que ça, et parce que justement, du jour au lendemain, tu peux avoir plein de consultants qui l'apprennent par eux-mêmes avec une formation comme la mienne, et qui du coup vont savoir faire de la technique. Donc je me dis, ce qu'on doit faire, c'est trouver une sorte de spécialisation. Et la spécialisation, c'était vraiment être spécialisé uniquement sur du Facebook et Instagram Ads, parce que c'est un bon axe de communication de dire, tiens, on est les meilleurs sur Facebook et Instagram Ads, on est spécialisé là-dedans, on ne fait que ça pour nos clients, et on fait ça depuis super longtemps, on a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent sur ces plateformes-là. Et j'ai trouvé un autre axe sur lequel on n'était pas bon du tout à l'époque, et sur lequel on est seulement en train de s'améliorer et de vraiment avoir des choses à montrer et à raconter, c'est la créativité. Parce qu'il y a beaucoup d'agences et consultants qui font des campagnes Facebook et Instagram, et qui font que ça, donc qui sont spécialistes, mais qui ne sont pas créatifs du tout. Donc si tu prends les deux axes, donc tu as l'axe Y, donc par exemple spécialisation, et l'axe X, créativité, ben tu as beaucoup d'agences qui sont tout en haut de la spécialisation, mais qui sont tout à gauche dans la créativité. Donc tout à gauche, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes. D'accord ? Et là, c'était là où on était avant. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant si on allait plutôt dans très spécialisé et très créatif. En tout cas, plus créatif que les autres. Et donc, c'est un peu là où on a cherché à se positionner. Et je trouve que ça te permet déjà de se démarquer, parce que franchement, je le remarque, quand je parle de nos offres créa à des prospects potentiels, déjà, ils sont hyper emballés, parce qu'ils disent, ah, c'est intéressant, ça, notre ancienne agence ne faisait pas ça, ils nous proposaient pas de contenu, ils allaient juste se contenter d'utiliser le contenu qu'on leur donnait, et ils n'avaient jamais leur mot à dire là-dessus. Ou alors, certains disent, ouais, mais tiens, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une agence créa, une agence média, j'aimerais bien avoir les deux. Donc, le fait d'avoir cherché à se positionner sur le créneau spécialiste et créatif, ça nous a beaucoup aidé, je pense, à rester, je ne vais pas dire être les meilleurs, mais en tout cas à se démarquer par rapport à la pléthore à tous les constants qu'il peut y avoir dans ce créneau-là. Donc, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai raconté ici par rapport au positionnement, mais je trouve que c'est un truc, on ne le dit pas assez, mais quand tu démarres, quand tu as trouvé ce que veut ton client, ses besoins, ses problèmes, tu as identifié une solution, essaye de voir comment tu peux te positionner pour vraiment valoriser le plus ta solution et ton entreprise comme étant celle qui apporte la meilleure réponse au problème.
Moi, je t'avouerais que c'est la chose où je me suis moins posé la question pour la data. Enfin, si, je sais, voilà, je prends les startups parce que c'est des gens où j'ai pas besoin d'évangéliser sur la data analyse. Je pense qu'à un moment, ils sont assez... ils connaissent normalement tout ça, donc c'est plutôt bien. Et j'aime bien les gens qui ont des grandes envies, même si ça ne marchera pas forcément. Et par exemple, je n'ai pas posé les questions de qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus. Donc, je vais y travailler quand je vais réécouter le podcast. Et tu vois, pour mon podcast, je l'ai fait en side project, en mode « Oh, c'est génial, wow, des fleurs bleues, des licornes, on va faire un truc, ça va être énorme. » Et bien, en fait, vu que j'aimerais faire quelque chose de plus fort, je me rends compte que je me suis mise dans un océan rouge, de rouge, de rouge, énormément rouge, où il y a plein de gens qui interviewent des entrepreneurs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je...
Oui, mais c'est ça. C'est ça que j'allais dire, oui. Voilà, ton podcast, c'est ça.
Je me suis grillé.
Je vais te dire, avec ton podcast, on aurait pu faire l'exercice, mais en gros, j'ai vu ce que tu faisais. Tu interviewes des entrepreneurs, mais je connais au moins 10 podcasteurs en France qui interviewent des entrepreneurs. Non, tu peux trouver une différenciation. Je dis juste que tu dois trouver un positionnement qui est unique par rapport à eux. C'est possible. Hein. Moi, j'ai un podcast sur le marketing. Moi, comment je cherche à me positionner, c'est de me dire, tous les gens que je vais inviter, c'est des spécialistes dans un domaine particulier et ils vont parler de ça pendant une heure et demie. On va te faire une vraie masterclass. On va vraiment aller dans les profondeurs du truc et tu auras appris plein de choses qui seront applicables et tu seras aussi inspiré par le parcours de notre invité. Tu vois. Je ne connais pas tant de podcasts que ça qui ont des interviews aussi, lourdes, chargées que celles qu'on a dans le rendez-vous marketing. Là, je suis content de ce que j'ai déjà pu faire avec ce podcast-là. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'on a le meilleur positionnement, mais c'est un peu comme ça que je cherche à me démarquer. Après, maintenant que j'y pense, honnêtement, il n'y a pas tant de podcasts marketing qui interviewent des marketeurs. Non. Tu as des podcasts business qui interviewent des marketeurs, des chefs d'entreprise, des CMO, etc. Des podcasts comme le mien, il n'y en a pas tant que ça.
Ouais. Mais en fait, vu que moi, j'avais tellement juste envie de créer un podcast et d'interviewer des gens que j'ai toujours voulu rencontrer et que je ne trouvais pas le moyen pour, que le podcast a été aussi... Enfin, ça a été possible. Que maintenant que j'aimerais que ça ait plus d'impact, et ben ouais, j'ai l'impression de creuser ma tombe, tu vois.
Non, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, que tu trouves un axe unique à chacun de tes épisodes. Je sais pas lequel. Honnêtement, ça prendrait peut-être une ou deux heures le temps d'y réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ton podcast. Mais il y a toujours une solution. Ça, il y a pas de souci par rapport à ça. Et je trouve que tu as de la chance. Le marché des podcasts, on va dire, il est qu'au balbutiement. Il y a aucun podcast en France. Il y en a très peu. Donc là, c'est que le début. C'est bien déjà avoir un podcast maintenant en 2021. C'était encore mieux d'en avoir un en 2017 ou 2018. Donc là, je regrette un peu. Mais clairement, là, il y a encore beaucoup de marge et tu as le temps avant de trouver ton positionnement unique. Ça peut être le simple fait d'avoir que des entrepreneurs dans un certain secteur. Moi, je n'aime pas trop avoir le positionnement où tu vas te baser uniquement sur une industrie. Mais ça peut être aussi sur la qualité de tes interviews. Parce que il y a beaucoup d'interviews qui sont déjà très qualitatives. Ça peut être sur le format. C'est vrai que le format, il y en a beaucoup qui innovent là-dessus. Qui ont un positionnement unique parce qu'ils ont un format unique. Ça peut être sur les questions que tu as posées. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que c'est plutôt des trucs super spontanés? Ça dépend. Franchement, il y a plein de manières d'avoir un podcast qui est unique. Il faut juste que tu réfléchisses vraiment, encore une fois, à deux axes où tu veux vraiment être très, très, très forte dans ces deux axes. Et si possible, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y ait peu de dans ton cas, de podcasteurs qui soient bons là-dedans.
Moi, je veux savoir... Là, c'est des questions un peu plus personnelles. Quel est ton plus grand défaut ?
Je suis très impatient. Je contrôle ça sur le long terme, sur le court terme. Je m'impatiente très vite. Genre, je ne supporte pas les fils. Quand les choses se passent mal sur du court terme, encore une fois, ça m'agace. Donc, je pense que mon impatience, ça reste un beau défaut qui m'a parfois causé des problèmes et qui a parfois causé des tensions avec des proches.
Mmh. Ah, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu détestes faire ?
Je déteste repasser sur le travail des autres. J'aime pas non plus faire l'administratif. Donc, je pense que vraiment, un truc que j'aime pas, c'est admettons que je délègue quelque chose et qu'on doit passer du temps à voir tout ce que tu as fait et que si ça, c'est pas bien fait, que je dois recorriger tout ça, que ce soit un prestataire ou une personne salariée. J'ai vraiment du mal avec ça parce que quand je délègue quelque chose et que quand je fais confiance à quelqu'un, j'attends que le travail soit mieux fait que ce que j'aurais fait moi-même. Donc, du coup, j'ai un peu de mal avec ça.
Et quand tu délègues parce que tu sais déjà faire ou parce que tu sais pas faire ?
Les deux. Mais principalement, ce que je sais déjà faire. Je pense qu'il y a très peu de choses que je sais pas faire, que je délègue, à part le montage vidéo, le montage du podcast. Mais la plupart des trucs que j'ai délégués, je sais le faire.
Tu montes pas toi le podcast ?
Non. Mmh. Non, c'est Dylan qui le monte, mon cousin.
Ça met du temps. Donc,
faut mieux déléguer. Ouais, j'ai jamais fait.
D'accord. De toute façon, franchement, les premiers podcasts que j'ai montés, j'ai mis 10 heures par épisode.
Ouais, tu vois, mais non, lui, il y passe quand même moins de temps. Il y passe peut-être sur un épisode de 1h30, il va y passer 2h30, allez, un truc comme ça.
Oui, mais la learning curve, tu vois, du début, du je ne savais pas du tout faire, à maintenant, c'est simple, je suis quasiment sur mon portable à côté.
Exact. Ouais.
Et je peux faire autre chose.
Exact. Exact. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment ça.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager ?
Ouais, il y en a une que j'ai partagée récemment. À un pote qui me demandait justement, je ne vais pas dire la même question, mais qui me disait voilà, qu'est-ce qui s'était arrivé récemment dans ton activité en tout cas, qui était un peu loufoque ou quoi. Et c'est qu'en gros, j'ai failli perdre un client parce que j'ai fait un post LinkedIn. Et dans ce post LinkedIn, en gros, je me plaignais d'un contact que mon client m'a envoyé. Et en fait, le contact en question, il était assez intrusif, c'est-à-dire qu'il a eu mon numéro, mais il n'arrêtait pas de m'envoyer des WhatsApp, genre à des heures bizarres, le dimanche, etc. Alors que on était dans une négociation, on parlait un peu de son projet et je trouvais ça un peu fort de m'envoyer des messages le dimanche. Donc j'en ai fait un post LinkedIn pour expliquer que je ne serais pas normal que des prospects me contactent à toutes les heures, sur tous les canaux, quand ils veulent, qu'ils exigent que je sois hyper réactif. Et en fait, le client qui m'a référé a vu le post et sur le coup, il a eu envie qu'on arrête la collaboration. Et puis après, on a pu s'expliquer, gérer tout ça, mais j'étais un peu honteux à la fois pour mon client parce qu'en effet ça partait d'une bonne intention et je le répète, c'était pas du tout le but n'était pas de clasher la personne, mais juste de faire comprendre que parfois, quand on est indépendant, qu'on gère des, enfin, qu'on parle à beaucoup de personnes, c'est parfois lourd de recevoir des messages à toutes les heures, le dimanche, pour une offre, pour fixer un rendez-vous, quoi. Donc, du coup, j'avais envie de faire passer ce message-là. Et je l'ai fait d'une manière un peu trop maladroite, puisque ça n'a pas été apprécié du tout par certaines personnes qui ont lu le poste, mais aussi par mon client qui a voulu arrêter la collaboration. En plus, on a toujours une bonne relation aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai clairement expliqué ma position, mes erreurs, et j'en ai appris plein de choses. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut éviter de poster des trucs trop polémiques sur LinkedIn, surtout quand une personne qu'on apprécie ou avec qui on a une relation d'affaires, que cette personne-là est impliquée, il vaut mieux éviter de faire des posts comme ça.
LinkedIn, c'est aussi le jeu, quoi, de faire des posts forts et des posts moins forts. Ouais,
je sais. C'était calculé au départ de faire ce post-là, parce que je me disais, tiens, je sais que si je fais un post comme ça, ça va faire réagir. Mais le truc, c'est que ça a fait mal réagir à mes clients, et ça, je regrette encore aujourd'hui, parce que, évidemment, on a pu se réconcilier, en tout cas se mettre d'accord. Et moi, je lui ai clairement expliqué que je n'avais pas des intentions d'être irrespectueux envers lui ou envers d'autres personnes. On a pu arranger tout ça, mais je regrette encore un peu aujourd'hui. Je suis toujours un peu honteux parce que tu me demandais c'était quoi mon anecdote de la honte. Ouais. Donc c'est un peu celle-là.
Merci de l'avoir partagé, mais je comprends tout à fait. Parce avec que plaisir. J'ai déjà eu un client, mais en plus c'était l'erreur de prendre des amis en client. Au moins on m'a dit que c'était une...
Ah oui, ça il faut éviter.
Voilà, donc je ne le refais plus non plus. Ouais, et quand il t'envoie un message à 22h30, vendredi soir.
Voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que moi personnellement, aujourd'hui quasiment je ne fais jamais de business avec des amis. Quand on m'envoie des messages sur Messenger et tout, je réponds pas parce que c'est pas l'endroit pour faire du business. Donc vraiment je suis devenu super strict par rapport à ça. Donc maintenant je fais hyper attention aux canaux de communication, parce qu'il y a des moments où on a envie d'être tranquille. Donc si tu m'envoies un message sur Messenger à 22h comme tu dis un vendredi soir, ne t'attends pas à ce que je te réponde le soir même, ou t'attends même pas à ce que je te réponde dans les prochains jours, parce que pour moi, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, quand je veux faire du business avec quelqu'un, je ne contacte pas par Messenger. Je peux peut-être lui envoyer un message et lui dire tiens, est-ce que je peux avoir ton adresse email, j'aimerais bien te demander quelque chose pour qu'on puisse travailler ensemble, ou j'ai une question business à te poser si tu as le temps. Mais des gens qui ne respectent pas mon temps, qui m'envoient des WhatsApp, des Messenger à toutes les heures et qui me contactent uniquement pour me poser des questions, ou même c'est pour travailler avec moi, mais qui le font par Messenger, moi j'aime pas trop. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais Danilo, t'exagères un peu, on peut communiquer où on veut. Oui, peut-être, mais je trouve que ces boîtes de messagerie-là ne sont pas faites pour le business.
Oui, et vu qu'il y a plein de messageries, etc., partout, les gens, ils se disent, oh, mais c'est bon, il est connecté, ou oh, il va le voir, donc c'est...
Exactement, exactement. Mais moi j'en ai strictement rien à faire que tu aies vu mon message ou quoi. Enfin, que tu sais que j'ai vu ton message, parce que ça, c'est pour moi, c'est le truc pour devenir dingue. C'est d'avoir cette pression de ah, tiens, il a vu que j'ai vu son message, etc. Enfin, moi, je m'en fous complètement de ça. Après, bon, pour ceux qui nous écoutent, si vous m'envoyez un mail, si vous m'envoyez un message sur LinkedIn, si vous m'envoyez un message sur Instagram, il n'y a pas de souci, je vais répondre parce que c'est mes trois réseaux pro, enfin, mes deux réseaux pro plus mon adresse email. Mais c'est vrai que sur Facebook, sur WhatsApp, ça risque d'être plus compliqué. Enfin, et j'ai aussi mon Facebook Pro, là je réponds encore, mais honnêtement beaucoup moins qu'avant. Mais mon Facebook Pro, je réponds encore.
Oui, parce que sinon, t'es dépendant plutôt de 10 canaux et tu t'en sors plus.
Exactement. Je pense que j'ai divisé, à mon avis, c'est mon temps par 3, mon temps de réponse au message, en ayant appliqué un peu ces principes de un peu moins répondre, répondre avec un peu plus de retard, ou alors répondre en batch, c'est-à-dire vraiment prendre 2 heures sur ma journée ou sur mon week-end pour répondre à tous les messages auxquels j'ai pas pu répondre. J'y réponds d'un seul coup et je suis tranquille. Après, si on a certains qui sont pas contents de ça, désolé pour eux, moi je suis pas à leur disposition à toutes les heures et tous les jours.
Quel entrepreneur tu me conseillerais d'interviewer?
Ah, ça c'est une bonne question, je connais plein d'entrepreneurs sympas. Attends, j'ai regardé déjà qui j'ai interviewé sur mon podcast et je vais te dire. Il y en a un que j'aime bien, franchement, j'ai adoré faire une interview avec lui, il le sait, c'est Alex Viseo, qui était influenceur voyage et qui est coach en personal branding. J'ai adoré l'interview avec lui. Beaucoup de personnes qui ont écouté le rendez-vous marketing me l'ont fait savoir et l'épisode a beaucoup été écouté. Donc lui, j'ai beaucoup aimé l'interviewer. Il est assez ouvert, il est assez disponible, donc je pense que si tu le contactes de ma part, il devrait normalement te répondre et te dire oui, je pense. À qui je pense encore, qui est vraiment intéressant. Je suis désolé, à chaque fois qu'on me demande tu connais qui, tu connais tel, j'ai du mal à trouver. Mais Alex Vizzo, il me vient vraiment en tête parce que c'était une super interview avec lui. En plus, c'est la plus récente, pour être honnête. Donc voilà, j'ai pas d'autres. Ah, et Charlotte Apieto de Postadem. Elle est super inspirante, super cool. Je trouve qu'elle parle super bien. Elle a les idées claires. Donc elle, je te la conseille aussi.
D'accord. Ben, je prends note. Et la dernière question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Une personne, ou alors dans un livre, ou dans...
Comme, peu importe.
Moi, franchement, le meilleur conseil qu'on m'ait donné alors dans ce cas-là, et que j'ai toujours en tête, c'est qu'il faut rester focus. Il faut rester focus sur ses objectifs, sur sa vision, sur les plans qu'on a préparés. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais en dévier. Je dis juste qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on peut lire sur Internet, tout ce qu'on peut entendre, on a tendance à vouloir, comment dire, attraper l'objet brillant, se défocus, tester des nouvelles choses, tester un nouveau business, une nouvelle idée, etc. Moi, je préfère vraiment rester arrêté sur mes idées parce que je sais que pour l'instant, on va dans la bonne direction. Et donc, en restant focus, bah, ça me permet vraiment de, tu vois, ne pas être, me dire « Oh, je vais encore rater ça, je vais rater cette opportunité-là, je devrais le faire, je devrais essayer, je devrais tenter d'exécuter un peu plus cette idée. » Peut-être que ça me permettrait de, comment dire, que ça pourrait bien marcher, mais en même temps, ça m'amènerait du stress parce que je t'assurerais plein de projets en même temps. Donc, je trouve que le simple fait d'être focus sur ce que je veux, ce que j'ai préparé, ce que j'ai planifié et la direction dans laquelle je veux aller, ça me permet vraiment d'être en paix et surtout bah, d'avancer et de ne pas trop être déconcentré par bah, tout ce qui peut se passer autour de moi. Quoi. Et j'aime bien aussi les effets cumulés. J'aime bien me dire que si je cherche à m'améliorer un tout petit peu tous les jours, donc par exemple de 1% chaque jour, bah, les effets après 1 an, 5 ans, 10 ans seront incroyables. Alors que si tu regardes le changement, ton évolution sur un jour ou sur une semaine, bah, le changement, tu le vois à peine. Mais si tu regardes ça sur 5 ans, c'est incroyable. C'est, moi, je me compare à la personne que j'étais il y a 5 ans, mais ça n'a plus rien à voir. J'ai découvert vraiment mes forces, mais surtout, j'ai développé des forces, des qualités que je n'avais pas et que j'ai pu avoir en étant entrepreneur. Donc, peut-être tout ce qui est organisation, communication, persuasion, confiance en soi, que puis-je dire encore, que j'avais pas avant, éthique de travail, j'en avais déjà une avant, mais surtout la mentalité de progression, je te dirais. Avant, je réalisais pas qu'en fait, si tu cherches toujours à t'améliorer, bah, tu ne peux que évoluer, tu peux que avoir des résultats parce qu'en fait, t'es constamment drivé par ça. Et donc, t'es toujours motivé parce que tu cherches toujours à t'améliorer, à progresser, à faire mieux que la dernière fois. Faut pas voir ça comme une course, tu vois. Une course, pour moi, c'est voilà, tu cherches absolument à être le meilleur et si tu l'es pas, enfin, tu cherches à gagner la course et si tu la gagnes pas, t'es dégoûté et tu arrêtes. Non, là, c'est pas ça. Pour moi, c'est un marathon qui se termine jamais et dans lequel voilà, le seul but, c'est de continuer à s'améliorer et vraiment de profiter du voyage plutôt que de chercher à être heureux quand tu arrives à destination. Je sais pas si c'est ce que je veux dire.
Si, je connais exactement cette métaphore et on me dit souvent de profiter du voyage. Enfin, voilà, mais on a souvent l'impression qu'on est en train plus de tirer le train que d'être dans le wagon, tu vois, et on admire le paysage.
Oui, mais en fait, tu peux faire les deux. Tu peux justement être la locomotive et admirer le paysage, profiter. Et en même temps, mais voilà, quand tu arrives à destination, tu es content et puis après, tu trouves une autre destination et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie d'être la personne qui va cravacher pendant 10 ans pour atteindre un objectif arbitraire, je sais pas, de gagner 5 millions ou de, je sais pas moi, je peux te donner plein d'autres exemples, de me payer une villa en Côte d'Azur par exemple. Mm-hmm. C'est un exemple qui me vient souvent en tête parce que je connais des entrepreneurs qui me disent que ça serait leur rêve et ce qui est très bien. Mais pour moi, c'est une finalité ça. Parce qu'une fois que tu as la maison, tu es dedans et ouais, c'est très bien, c'est très confortable, mais après, tu fais quoi ? Donc, moi, je préfère me focaliser sur le voyage, sur tout ce que je peux faire, toutes les choses que j'aime bien faire et que, j'essaye de faire. Aujourd'hui, j'essaye de faire que des choses que j'aime bien faire, comme faire des podcasts, par exemple. C'est un truc que j'aime bien faire et de profiter de tout ça. Et surtout, encore une fois, comme je te disais, de chercher à progresser. Mmh. Parce que je sais, par exemple, que ce podcast qu'on fait là, bah, c'est peut-être le 75e podcast, voire 80. Je pense que j'ai dû au moins faire 80 épisodes si je compte tous les épisodes que j'ai fait sur mon podcast et ailleurs. Bah, clairement, mon premier podcast, j'étais très nul. Bon, là, on est au podcast 80, je pense que je suis un peu meilleur. Et ça, j'aime bien ce sentiment de progression.
Ah, mais complètement, c'est à force, c'est l'intensité qu'on met dans ce qu'on fait qui nous rend meilleur. C'est même pas l'expérience. C'est à force exactement. De faire, tu fais, tu te répètes, ben, tu seras meilleur. Mais clairement, que ce soit toi dans ton blog, dans ton podcast, dans ton expertise Facebook, dans ta relation exactement. Avec des clients, enfin... Dans tout ce qu'on fait.
Mais après, je dirais une dernière chose pour conclure, c'est que il faut pas chercher à améliorer des faiblesses. Si t'es vraiment nul dans quelque chose, admettons que t'es quelqu'un qui n'aime pas du tout manager, mais n'essaye pas de devenir manager. Délègue ça, trouve un manager qui le fera mieux que toi et concentre-toi sur ce dans quoi tu es le meilleur et cherche à t'améliorer là-dedans. Bien sûr, tu peux travailler certaines faiblesses, ça c'est sûr et certain. Moi, par exemple, j'étais pas très bon en communication et en organisation à l'époque, quoique organisation, j'étais pas très bon, mais je pense meilleur que d'autres. Là, j'ai bien progressé parce que il a bien fallu que je progresse. Mais en communication, sincèrement, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu introverti et voilà, je m'exprime pas facilement. Enfin, je m'exprimais pas facilement en public et j'avais un peu du mal avec les autres à même vendre mes services ou me mettre en avant. Maintenant, je fais beaucoup mieux parce que je cherche à m'améliorer, mais je le fais beaucoup moins bien que d'autres personnes qui sont naturellement fortes là-dedans, tu vois. Donc, je sais que ce ne sera jamais mon fort d'être une bête de scène ou d'être super bon en vidéo parce que voilà, c'est pas dans ma personnalité.
Oui, mais après, tu vois, je donne l'exemple juste rapidement. Le podcast, j'ai voulu le faire, mais là, j'articule. Mais à une époque, j'articulais pas du tout assez bien. On me l'a reproché, on me l'a dit « Ah, toi, fais un podcast, mais personne ne voudra parler avec toi et tout, t'es personne. » genre j'avais des entrepreneurs strasbourgeois que j'adorais et maintenant que j'adore parce que j'ai pu les interviewer alors qu'on m'a dit que c'était impossible, tu vois. Et malgré tout que j'ai pas la bonne voix, on m'a tout le temps reproché de pas s'articuler, de pas avoir une belle voix, de voilà, c'est normal si tu sais pas chanter, t'as une voix dégueulasse, enfin voilà, tu vois. Je me suis quand même dit en fait tant pis, j'irai chez un orthophoniste. Ouais. Je l'ai fait. Et je ferais quand même ça, quoi.
Exact. Mais tu vois, moi, c'est un peu ça. Et maintenant, tu vois, par exemple, on parle. Mais j'avais beaucoup ce problème d'articuler dans mon podcast. Bon, déjà, il y a deux choses. Les épisodes de podcast que j'ai enregistrés, il y a encore un mois, je les ai enregistrés avec un Invisalign. Donc, c'est un appareil dentaire qui est invisible, mais en gros, c'est une gouttière. Donc, ça facilite pas le fait d'articuler. Maintenant, je ne l'ai plus. Et du coup, j'articule beaucoup mieux. Je parle lentement. Donc là, je le fais exprès de parler plus lentement. Et c'est un truc que je fais plus consciemment, alors qu'avant, il fallait vraiment... Enfin, je fais plus inconsciemment, alors qu'avant, il fallait vraiment que je me concentre et que je me dise « Ok, parle lentement, là, tu parles trop vite. » Et donc, j'avais vraiment ce problème de parler très vite, de parler un peu dans mes dents à cause de l'Invisalign. Et en plus de ça, déjà, quand j'étais plus jeune, j'articulais pas beaucoup. Et là, j'ai un peu travaillé ça. Je t'avoue que j'ai pas encore été voir un orthophoniste, mais je compte bien le faire. Et ça m'a permis de m'améliorer. Mais je sais que je ne serai jamais aussi bon que certaines personnes qui, naturellement, sont très bons en interview, s'expriment super bien, super clairement, très posées, avec des belles phrases, etc. Je sais que je ne serai pas aussi bon qu'eux, mais j'ai pu progresser un peu, tout comme toi, ou visiblement, tu as progressé là-dessus.
Oui, voilà. Mais après, je me dis, on n'est pas des journalistes. Ce n'est pas grave si on n'arrive pas à mener une interview avec des belles phrases, des belles questions. En fait, c'est juste la passion.
Exact, c'est pas grave, mais il faut quand même chercher à être bien préparé, oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais c'est vrai qu'en effet, t'es pas obligé de faire aussi bien qu'un journaliste.
Oui, mais pour pas culpabiliser, pour pas se mettre de frein en disant, ouais, je peux pas faire un podcast, je peux pas écrire parce que je suis pas journaliste, je suis pas écrivain, c'est ça, surtout.
Non, ça non.
Ok, ben merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
C'était un plaisir.
Merci à Danilo et à très bientôt.
À très bientôt, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.